Bonjour à tous, vous allez bien? On est à peu près tous revenus de vacances. On va pouvoir mettre autre chose sur Internet que les poules et les poussins. Chaque fois que j'ouvre, ça me fait rigoler, parce qu'on a, je crois qu'on a rarement laissé si longtemps quelque chose, mais c'est bien. Ce matin, j'hésitais, il y a plusieurs choses que je voudrais mettre, mais est-ce que vous savez qu'ils ont découvert que la Lune a rétréci? Vous avez vu ça? Ouais, est-ce que ça vaut la peine qu'on le mette sur Internet, que la Lune a rétréci? Oh, on le dit déjà, c'est pas mal. Que, voilà. En tout cas, on est content d'être là. Notre sœur Simone qui est en vacances encore, la Vénarde, notre frère Stéphane qui vient de partir en vacances, c'est pourquoi on n'a pas de pianiste ce matin, le Vénard, mais nous on est rentrés, on était dans une maison prêtée par un frère, Daniel Perrin, je ne sais pas si tous les frères et sœurs de la communauté, je crois que vous le connaissez, et son épouse, et ils nous ont prêté leur maison en Bretagne, c'était génial, c'était bien, il a plu tout le temps. Non, il y a eu 2 jours de beau. On a eu 2 jours de beau, on a pris le bateau, on est allé sur une île, c'était très joli. Moi, j'ai des crêpes. On a pensé à Alain. Il y a eu des crêpes fourrées aux crêpes. Non, c'était pour vous dire, voilà, les vacances maintenant c'est terminé, on reprend de nouveau les choses sérieuses, les enfants se réjouissent tous d'aller à l'école. Oui. Il n'y a pas que les enfants, il y a Catherine aussi qui se réjouit de retourner à l'école. Oui, c'est bien, c'est bien. Oui, on a notre frère, par contre, notre frère Michel, on a prié pour lui, notre frère Roland aussi, qui sont souffrants et on compte sur l'aide de Dieu, sur le Seigneur, sur l'intervention de Dieu. Là, j'ai eu des nouvelles de l'oncle de notre sœur Sandrine. C'était un cancer au pancréas, c'est ça, hein? C'est ça? Ah, la prostate, pardon. Et c'est guéri. Gloire à Dieu! Amen. Alors, ça fait plaisir, c'est bien, il y a des bonnes nouvelles comme ça. Et voilà, la vie. Ce matin, je voudrais vous parler encore sur la foi. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 17, 20. Enfin, on va prendre le verset 19. « Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, lui dire en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Et Jésus répond, « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Amen. Ensuite, il dit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Alors là, c'est là où tout le monde, comme on dit en Suisse, s'en couble et trébuche. Asseyez-vous, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il y a des démons qui sont dans les gens et que pour les chasser, il faut qu'on jeûne et qu'on prie. Faux, archi faux. Quel était le démon quel était le démon qui ne sort que par le jeûne et la prière? Eh bien, c'est le démon d'incrédulité qui avait saisi les disciples. Ils auraient dû jeûner et prier afin d'être plus croyants. Voilà la réalité. Alors arrêtez avec vos jeûnes à répétition qui ne servent à rien du tout. Sinon, peut-être à chasser vos propres démons d'incrédulité. Ça, c'est une bonne chose. Jeûnez pour ça. Mais jeûnez pour que quelqu'un pour qui vous priez soit délivré, non. Moi, je ne fais pas ça et je peux vous garantir qu'on a du succès dans la prière. Ça n'a rien à voir. Écoutez ce que les serviteurs de Dieu qui ont de l'expérience vous disent. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Il faut se prendre au sérieux avec ce que Dieu nous a donné. Moi, je vous dis, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. L'expérience. 42 ans, je sais que c'est vrai. Amen. Donc, ta foi t'a sauvé de tels textes où si tu crois, ce que tu dis, tu le verras s'accomplir, ou tout est possible à celui qui croit. Tout ça, c'est des textes qui nous montrent une direction. Alors, on les lit, mais est-ce qu'on fait vraiment attention? Il y a beaucoup de confusion. Et la plus grande des confusions dans les milieux chrétiens, c'est de ne croire qu'en Dieu. Qu'en Dieu. Parce que, mes frères et sœurs, il est important pour un enfant de Dieu de se rendre compte que le pouvoir de résoudre correctement les difficultés, ce pouvoir, ben Dieu l'a mis en vous. C'est ta foi qui t'a sauvé. Si tu crois ce que tu dis, tout est possible à qui? À Dieu? Non, à celui qui croit. Qu'est-ce qu'il dit là encore? Il dit là aussi, rien ne vous serait impossible, ne vous serait impossible. On dit tout est possible à Dieu. Oui, mais rien ne m'est impossible à moi, si seulement je crois. Vous voyez, arrêtez avec ces histoires de croire en Dieu tout le temps pour tout, et de vous cacher derrière Dieu comme des pauvres misérables vers de terre qui n'ont aucune puissance, aucun pouvoir. Vous avez tout pouvoir par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui ou non ? Mes frères et sœurs, les chrétiens n'ont pas de stratégie. Nous devons avoir un enseignement qui nous donne la possibilité d'avoir une stratégie de vainqueur. Et ne pas nous placer comme des mendiants, mais comme des vainqueurs. Les chrétiens, malheureusement, n'ont pas de plan d'action et ils réussissent rarement à résoudre leurs problèmes par leur foi. Ils réussissent, comme tout le monde, à résoudre leurs problèmes la plupart du temps. Par la chair, par toutes sortes de trucs, de machins. Il faut dire aussi qu'ici en Europe, on a tellement de facilité pour résoudre nos problèmes avec la chair, c'est-à-dire avec le secours du bras humain, sans avoir besoin de miracles, que on n'est plus tellement habitué à faire des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a pourtant tout placé en nous et tout être humain possède des pouvoirs extraordinaires. C'est sous forme de semences, mais ça doit se développer, ça doit se travailler, ces pouvoirs. Ils peuvent être canalisés, ces pouvoirs, ils peuvent être utilisés dans toutes les situations et même dans les situations urgentes. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne les utilisent que dans les situations urgentes et comme ils ne sont pas exercés dans les petites choses courantes, eh bien, quand ils se trouvent devant une situation urgente, ils bafouillent, puis ça ne marche pas bien. Vous comprenez ? C'est comme un sportif qui est demandé à notre frère Richie qui est prof de sport. C'est pas possible. Quelqu'un qui veut faire le 100 mètres, il doit s'exercer. Aujourd'hui, sur le top chrétien, il y a un article au sujet de « Mais qu'est-ce que fait le pasteur ?» Beaucoup de gens s'imaginent qu'il prêche 20 minutes le dimanche, une demi-heure le jeudi ou le vendredi, ça dépend des églises, et puis que le reste du temps, bon, il va faire 3-4 visites à des mémères, et puis voilà. Et puis qu'il fout rien, en fait. Hey ! Il faut au moins 2 heures de prière, de lecture de la Bible, sans chercher à préparer des prédications, simplement pour sa propre vie spirituelle, parce qu'on doit avoir une vie spirituelle quand même de berger, c'est-à-dire de personnes qui sont en avant. Rien ne coûte rien. On doit passer du temps dans la recherche, dans la lecture, on passe les 35 heures. La retraite à 65 ans ou à 62, un pasteur ? Non. Et c'est la même chose pour le chrétien. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on exerce les choses. Nous avons à développer une foi active, la développer, et cela dans toutes les situations, pas seulement dans les urgences. Parce que c'est vrai, comme je vous le disais, en Europe, ici, moi qui vais souvent en Afrique, le frère Joab, il connaît là-bas, les forces ici, chez nous, elles restent passives parce qu'on peut... Hop, le médecin. Hop, l'argent qui sort du mur, comme dit Nicolas. Hein, voilà, carte bleue, à débit différé, en plus, c'est génial. Et tellement de choses, tellement de facilités. Moi, je reçois toutes les semaines des papiers. Vous pouvez nous emprunter 2 500 €. Vous avez un crédit de temps et tout. On peut faire ci, on peut faire. C'est génial, on a tellement de possibilités. Qu'est-ce que vous avez besoin de la foi ? Plus besoin de la foi, on peut très bien faire. Vous voulez acheter un appareil de photo demain ? C'est rien de plus facile, vous allez à la FNAC. Si Marc m'écoute ce matin, il va crier au secours. Vous allez à la FNAC, vous prenez une carte, vous payez en 10 fois, en 20 fois. Je crois qu'ils prennent 0,02%. Mais ce serait bête de s'en priver. Vous comprenez ? On n'a plus besoin de la foi. Vous êtes mal fichu, mais on a tous les hôpitaux, tous les savants, mais c'est tellement extraordinaire ce qu'on vit ici. Alors, on n'a plus recours à notre puissance intérieure, parce qu'on a toutes sortes de palliatifs, et nous devons, mes frères et sœurs, prendre l'habitude de faire appel à nos pouvoirs spirituels. Dans la vie de beaucoup, ces pouvoirs ne sont sollicités que dans les cas d'urgence. Et alors, quand il arrive un drame, hop, tout d'un coup, ils se rappellent, ils ont un Dieu, ils se mettent à genoux, ils se mettent à crier, Mais comme ils sont rarement utilisés, eh bien, ils sont utilisés en amateur, sans maîtrise. Est-ce que vous savez comment faire agir cette puissance qui est en vous ? Nous sommes passés, la Bible nous dit, des ténèbres à son admirable lumière. Alors nous n'avons plus à agir comme si nous étions encore dans les ténèbres. Nous n'avons pas à agir comme les gens de ce monde qui sont soumis à toutes sortes de choses et qui sont aidés par toutes sortes de choses. C'est leur monde, nous en avons un autre. On peut profiter un peu de leur monde pour arranger les coins, mais nous avons plus qu'eux. les gens, beaucoup trop de gens, fonctionnent sur une méthode qui est toute simple, c'est la méthode de l'essai et de l'échec, c'est tout. Et puis comme ça ne marche pas souvent, eh bien ils manquent leur coup, et puis après ils se découragent. Mais ce n'est pas ça la vie de la foi. On n'essaye pas. Comme je disais l'autre jour à un frère, essaye de prendre ce livre que j'ai dans la main. Il me le prend, j'ai dit non, je n'ai pas dit de le prendre, j'ai dit essaye. Quand on essaye, on n'a rien. Il ne faut pas essayer, il faut faire. Avec certitude, avec conviction. Alors on doit planifier l'utilisation de nos pouvoirs, et surtout de celui de la foi. Est-ce que vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, que Jésus, celui qu'on adore, celui qu'on aime, celui qui est notre confident, notre Dieu tout-puissant, bien-aimé, Jésus-Christ, quand il était dans un corps de chair, dans la limitation telle que nous y sommes, il changeait l'eau en vin. Et puis, ils n'étaient pas du picrate à deux balles. Est-ce que vous imaginez que Jésus, limité dans la chair, comme nous le sommes, la même chose, il s'est fait homme comme nous. Hein? Il marchait sur l'eau. Moi, je marche au fond de l'eau. Je nage même pas, moi. Est-ce que vous imaginez qu'il multipliait les pains et les poissons? Ça, on a fait. Ça, on a fait. La communauté, souvent même. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que quand il avait des ennemis qui l'entouraient avec des pierres pour le lapider, il arrivait à passer au milieu sans que personne le touche? Il les neutralisait. Est-ce que vous imaginez que il avait toujours la bonne parole au bon moment? Nous, des fois, on est embarrassés, on est manque d'inspiration. Est-ce que vous savez que, par exemple, il trouvait moyen de payer ses impôts en allant à la pêche? Il ouvrait le poisson et il y avait le pognon dedans. Est-ce que vous imaginez qu'il provoquait des pêches miraculeuses? Est-ce que vous avez pensé que ce Jésus limité dans un corps humain comme le vôtre, il parlait à la mer, à la tempête, il calmait les éléments? Est-ce que ce pouvoir est en nous, mes frères et sœurs? Il est en nous, il a fait ça, non pas pour dire, regardez, c'est moi que je suis Jésus et je suis plus fort que vous et je vous en impose. Non, il a dit, tout ce que j'ai fait, vous pouvez faire la même chose et même de plus grande, ou dans l'autre version, en plus grand nombre. Ce pouvoir est en nous, il l'a dit que c'est en nous. Il a dit que nous pouvons tout faire, que rien ne nous serait impossible, que nous sommes comme lui, que ceux qui croient manifesteront les mêmes choses que lui, des choses surnaturelles. Je ne parle même pas des aveugles qui retrouvent la vue, des paralytiques qui marchent et des choses comme ça. Alors, voyons ce que nous pouvons faire. Nous pouvons utiliser, premièrement, la stratégie de la prière. C'est la technique de la remise entre les mains de Dieu. C'est une très bonne technique, c'est la technique du début, c'est très bien, on peut l'utiliser toute notre vie, c'est super, Jésus nous a dit qu'on peut le faire, moi je l'ai fait, c'est comme ça que j'ai commencé, parce que j'avais été voir un film qui s'appelle « La plus grande histoire jamais contée », à mon avis c'est le meilleur film sur la vie de Jésus, c'est avec Mark von Sydow, si vous voulez, vous pouvez le trouver n'importe où, à la FNAC, tiens aujourd'hui je fais la pub, hein, la FNAC. Il est là, ils l'ont ressorti. Vous pouvez la plus grande histoire jamais contée, ça s'appelle, c'est magnifique. Eh bien, j'avais été voir ce film, je devais avoir 15 ans, 16 ans. Et puis, dans ce film, à un moment donné, il dit, Jésus, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, quoi qu'ils demandent, je le ferai. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je me suis procuré, j'ai recherché ma Bible de protestant que j'étais. Puis, avec un copain, on a lu chaque jour un chapitre dans l'évangile de Matthieu, et on est finalement tombé le 18e jour sur ce texte, et on a vu que Jésus nous disait qu'on peut demander et recevoir, et qu'il y a la condition, c'était de se mettre d'accord sur la terre. On l'a fait, et on était exaucés, et puis on a raconté ça à nos copains, nos copines, on faisait des réunions de prière, mais des fois il y avait jusqu'à 100 personnes qui venaient, c'était tous les copains et les copines du village, mais ils étaient dehors, et nous, on prenait juste un à un, parce qu'il fallait être deux ou trois, pas plus. Parce que la Bible disait, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, donc il ne fallait pas être quatre. Il fallait être deux ou trois. Vous voyez, j'étais déjà fanatique. Hein? Donc, sur la parole, voilà, deux ou trois, ce n'était pas plus. Ça ne veut pas dire que j'avais raison, mais j'étais soucieux de faire ce que Jésus avait dit. Et comme il avait dit, deux ou trois assemblés en mon nom, je le ferai. Donc, j'ai dit, il faut être deux ou trois. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, quand Raphaël le Gitan est venu en Suisse, une des choses qu'il a dites à la radio et qui a fait que je suis allé l'écouter, il a cité ce verset, là où deux ou trois sont assemblés. Et personne ne le disait dans l'église protestante où j'allais. On citait jamais ce texte. Jamais. On avait la Bible, mais on devait le lire, mais on ne faisait même pas attention, puis on ne nous l'enseignait pas. Donc, une des premières choses, la première stratégie, c'est la stratégie de la prière, de remettre toutes choses entre les mains de Dieu, d'en parler à Dieu, de demander à Dieu. Et puis, en mûrissant, je mûris quand même, en étudiant scrupuleusement la Bible, j'ai rencontré aussi des hommes de foi qui sont puissants, et j'ai appris d'eux, j'ai vu qu'il y avait d'autres stratégies. Une, qui m'a beaucoup plu, c'est celle de faire face. Faire face aux menaces, faire face aux impossibilités avec autorité. Nous portons le nom de Jésus. J'entends souvent des gens qui font leur prière, blablabla, au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. C'est un petit peu au nom de Jésus, un petit peu comme ceux qui disent abracadabra. Et ils ne savent même pas pourquoi ils disent au nom de Jésus. Nous portons en tant que fils et filles de Dieu le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Nous avons un seul Dieu et son nom, c'est Jésus. En tant que membre de la famille, nous avons le même nom. Nous portons le nom de Jésus. Et ce que nous faisons, nous le signons. Nos actes sont signés par le nom de Jésus que nous portons. Nous portons ici-bas sur terre ce nom. Et sur terre, le prince des ténèbres, le prince de ce monde, ce n'est pas Dieu, c'est Satan, tout le monde le sait, enfin, du moins dans les milieux chrétiens éclairés. Eh bien, sur cette terre, le prince des ténèbres sait qu'il n'a pas le droit de résister à ce nom-là, le nom de Jésus que nous portons. C'est un nom qui le fait trembler, qui fait trembler la puissance des ténèbres de ce monde-là. Et ce nom, c'est le nôtre. C'est mon nom, c'est votre nom. Et vous pouvez l'utiliser comme on utilise notre nom sur un chèque. Vous mettez votre nom, c'est une signature, ça légalise la chose. Alors, agissez et signez. Ordonnez et signez avec le nom de Jésus. Pour faire face aux autorités, contre toute la puissance des ténèbres, vous employez le nom de Jésus, vous pouvez l'utiliser face aux puissances terrestres, face aux puissances spirituelles, ces puissances qui agissent depuis une dimension différente de celle des terriens. Nous sommes ici-bas parmi les terriens, mais nous sommes des esprits incarnés dans de la chair, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas des terriens, mes frères et sœurs. Et nous sommes d'un monde spirituel, et les attaques nous viennent principalement du monde spirituel, parce que le monde spirituel influence le monde des terriens, pour le tirer vers le bas, pour le tirer vers l'échec, pour le tirer vers la guerre, pour le tirer vers la haine. Mais nous, par le nom de Jésus, nous employons notre force spirituelle pour contrer ces forces spirituelles négatives et être vainqueurs au milieu des terriens afin de glorifier le nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, souvenez-vous de qui vous êtes. Quand vous regardez la glace, regardez-vous en face et dites « Je suis un extraterrestre ». Dites « Je suis pas de cette dimension-là, je ne suis pas un terrien, je suis d'un autre monde. Et mon nom, c'est Jésus. Je porte ce nom, le nom de mon Dieu. » Dans certains mouvements kabbalistes, on dit que celui qui peut connaître le nom de Dieu, il a toute la puissance. C'est pour ça qu'il cherche le nom de Dieu. Il cherche, il ne trouve pas, ils ont de la peine. Ils disent que Jésus, lui, il est entré dans le temple, derrière le voile, il a trouvé le nom de Dieu et c'est pour ça qu'il avait tous les miracles. Vous savez ça? Vous n'êtes pas des terriens. Vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas des mortels. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Vous n'êtes pas des mortels. Vous allez dire, mais pourtant on meurt. Non, vous ne mourrez pas. Simplement, vous changez de dimension, c'est tout. Et la dimension dans laquelle vous allez, dans laquelle je vais, bientôt, j'ai fait le plus gros maintenant à 60 ans, ouf, elle est bien mieux que celle-là, mes pauvres frères et sœurs. Mais si, quand on sera de l'autre côté, mais ce qu'on dira, mais pourquoi on s'est accroché à cette vie? Pourquoi on priait d'être guéri? Quel bonheur de pouvoir fiche le camp d'ici. On est là, on s'accroche. On se nourrit pour vivre encore. Bon, ben c'est vrai qu'on n'est pas suicidé, on n'a pas suicidé. On doit vivre pour glorifier le nom de Jésus sur cette terre. Et il y a des bonnes choses aussi dans cette vie. Mais mes frères et sœurs, mais réjouissez-vous, c'est encore beaucoup mieux de l'autre côté. Avec la puissance du nom de Jésus, nous pouvons tenir ferme dans ce monde. Toute son autorité, elle est en vous. Toute son autorité. Et ça, les puissances infernales le savent. Toutes. Votre voisin de palier ne le sait pas parce que c'est un terrien limité. Votre chef d'atelier ne le sait pas parce que c'est un pauvre terrien limité. Il ne vit pas dans le monde de l'esprit, il vit que sur la terre.
Moi, je n'ai bien certain.
Oui, bonne chance. Au revoir, monsieur. Vous voyez? Le monde ignore toutes ces choses-là. Mais le monde de l'esprit Le monde des esprits n'ignore pas qui vous êtes. Des fois, vous, vous oubliez qui vous êtes. Donc, je vous le rappelle ce matin, vous êtes des fils et des filles de Dieu. D'après Éphésiens 3:20, la Bible nous dit que là, on a une puissance qui agit en nous. Qu'est-ce que c'est cette puissance qui agit en nous? C'est la puissance de notre imagination, la puissance de notre foi. Et Dieu, par cette puissance, peut faire au-delà de ce qu'on prie, de ce qu'on imagine, de ce qu'on pense. Alors, est-ce que vous laissez cette puissance agir? Ou est-ce que vous faites seulement usage des puissances humaines? Jésus affirme clairement, très clairement, que si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Arrêtez de dire que rien n'est impossible à Dieu. Dites, rien ne m'est impossible, si seulement j'ai de la foi. La Bible dit ça d'une façon absolument littérale. C'est un absolu, mes frères et sœurs. Quand la Bible dit ça, ce n'est pas une illusion d'optique que vous avez en lisant. Ce texte-là n'est pas une fantaisie. Ce texte-là, il est comme il est écrit et il n'y a pas de possibilité d'interpréter ce texte. Il ne faut pas venir me dire, oui, mais la Bible, on peut se tromper parce qu'on peut l'interpréter. Ce texte-là ne s'interprète pas. Rien ne vous serait impossible si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Ça ne s'interprète pas. Ce n'est pas une parabole, ce n'est pas une parole symbolique. Ce n'est pas une métaphore. C'est un fait concret. Il l'a dit et c'est la vraie vérité. Alors les terriens, bon, ils se débattent comme ils peuvent. Il y en a qui se débattent mieux que d'autres. Il y en a qui arrivent même mieux que certains chrétiens. Dans beaucoup de choses, parce que voilà, ils sont débrouillards, ils sont intelligents. Dieu a donné l'intelligence aux terriens, c'est magnifique, c'est bien. Mais nous avons le pouvoir de la foi selon le Créateur du ciel et de la terre. Beaucoup de gens, des terriens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont la foi. Ils ont la foi dans le tabouret sur lequel ils s'assoient, ils croient qu'il va tenir. Ils ont la foi en eux-mêmes pour faire des affaires. Ils ont la foi dans leur pouvoir de séduction. Ils ont la foi dans toutes sortes de choses. Mais nous avons la foi en Dieu, c'est-à-dire dans ce que Dieu a dit, dans ce que Dieu a fait, dans ce que Dieu a promis. Les terriens, ils croient qu'ils ont le pouvoir du libre arbitre. C'est bien. Vous croyez ça? C'est super. Surtout, changez rien. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Mais nous avons le pouvoir de la foi, c'est autre chose. Mais comprenne celui qui peut comprendre, ça c'est terrible. La foi inspirée par l'amour de Dieu, mes frères et sœurs, nous assure le succès voulu par Dieu. C'est là où le bât blesse et c'est là où les terriens ne comprennent pas bien. Ça résout les problèmes, quels qu'ils soient, si vous y croyez et si vous agissez en conséquence. Qu'il en soit fait selon votre foi, nous dit Jésus dans Matthieu 9, 29. Qu'il en soit fait selon votre foi. Mais souvenez-vous, n'arrive que ce que Dieu veut. C'est pourquoi vous devez absolument être inspiré pour connaître ce que Dieu veut. Il faut absolument que vous soyez consciemment inspiré, que votre conscience soit inspirée. Il faut que vous soyez tenu dans la confidence. Il faut que vous soyez reçu dans la présence de Dieu pour être tenu au courant de ses secrets, de sa volonté, de ses projets. La Bible nous dit que certains sont, dans ce cas-là, ils sont appelés amis de Dieu. Les amis de Dieu, c'est ceux à qui Dieu dit tout. Tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir avoir une bonne vie. Soyez de ceux qui entrent donc dans l'intimité de Dieu, la foi. Entrez consciemment dans le monde des esprits par la contemplation. L'autre jour, il y avait une sœur qui écrivait au sujet d'un chanteur chrétien, « Ah, ça c'est super, c'est pas de la louange, c'est de l'adoration. » Alors je me suis permis de lui écrire, j'ai dit, « Écoutez, voir frère, sœur, ça fait 42 ans que je traîne mes guêtres dans les milieux chrétiens, il n'y en a pas un qui a réussi à m'expliquer quelle est la différence entre louange et adoration. » Elle me dit, « La louange, c'est quand on dit « Gloire à Dieu, Alléluia !» et puis qu'on se réjouit, qu'on saute, qu'on danse, qu'on chante, voilà. Et puis l'adoration, c'est quand on est comme ça, les mains comme ça, vous voyez, un peu écartées, les yeux qui papillotent. Et puis on écoute, et puis on rentre dans la présence de Dieu. Oui, je comprends ce qu'elle veut dire. Je comprends ce qu'elle veut dire. Mais enfin, c'est des mots pour expliquer des choses. Et nous, on en a d'autres. On emploie le mot contemplation à la place d'adoration, c'est tout. Mais pour moi, adorer Dieu, c'est aussi... Enfin bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais la contemplation, je vous ai déjà enseigné sur ces choses. Écouter, prendre le temps d'écouter Dieu, d'être là devant lui, de le contempler. Dieu a une bouche et il parle. Mais peu écoutent, ils font que de prier, ils font que de parler. Dieu a une bouche et nous avons des oreilles, mais il faut que nos oreilles soient faites pour entendre. Et c'est à nous de les modeler pour qu'elles puissent entendre. Alors, pour qu'on puisse entendre la voix de Dieu, il faut faire taire les bruits de ce monde. Et alors, c'est là que les chrétiens pas crêtes, hein, ceux qui sont... Alors, ils vous disent, voilà, les bruits de ce monde, c'est le rock'n'roll. Les bruits de ce monde, c'est... vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça ne va pas beaucoup plus loin que vos tympans, le rock'n'roll. Les bruits de ce monde, ce sont ces voix qui vous suggèrent le doute. C'est ça qu'il faut, maîtriser. C'est ça qu'il faut, c'est là où il faut faire attention. C'est toutes ces voix qui vous suggèrent de douter de Dieu, de douter. Est-ce que vraiment Dieu a voulu dire ça ou est-ce qu'il n'aurait pas voulu vous dire ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vraiment... Oui, ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il ne fallait pas manger de tous les arbres? Ces voix qui vous suggèrent le doute au sujet de votre identité spirituelle depuis que vous êtes en Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Combien de fois les voix viennent et vous font douter de ça? C'est ça les voix du monde. C'est pas twisting, shaking, c'est pas ça. On s'en fout de ça, c'est rien. C'est toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Mais on s'en fout de ça. C'est pas ça le monde. Le monde, c'est ces esprits de ténèbres qui vous poussent à douter. Foutez la paix aux jeunes avec la musique. Laissez-les écouter ce qu'ils veulent. Un jour, ils deviendront intelligents et comprendront qu'il y a beaucoup de choses, c'est de la gnognotte. Ma fille, quand elle avait 2, 3 ans, 4 ans, elle aimait Chantal Goya. Maintenant, elle a changé. Olivier, il aimait Eminem quand il avait 12 ans. Ben, ça a changé. Il est devenu intelligent. Vous comprenez? Il n'y a que moi qui n'ai pas changé. J'aime toujours Sylvie Vartan. Mais moi, je suis un gamin. C'est ça qui me sauve. Mais c'est une voix qui vous suggère de douter au sujet de qui vous êtes depuis que vous connaissez Jésus. C'est ça, les bruits du monde. Ils sont plus infernaux que les vociférations des pires chanteurs qui peuvent même blasphémer dans vos chansons actuelles. Tout. Bien sûr, les jeunes, c'est pas bien d'écouter ces chansons où il y a des blasphèmes. C'est pas bien que ça résonne dans vos cœurs. C'est pas bien. Mais... Tant que vous n'avez pas compris que ce n'est pas bien, ben écoutez-les. Écoutez-les. Puis un jour, le Saint-Esprit, si vraiment vous êtes de Dieu, le Saint-Esprit vous montrera que ce n'est pas bien. Puis c'est tout. Puis basta, ce que je vous dis. Mais si nous, on vous fait la guerre, dire il ne faut pas écouter, vous allez les écouter en cachette. C'est encore pire. Donc faites comme vous voulez. Puis quand le Saint-Esprit vous mettra... Mais il va vous coincer. Le Saint-Esprit vient vous coincer, ça va être super. On me réjouit. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. La seule exigence, c'est la foi. La foi. Mais la foi, ça vient d'où? Mais la foi, ça vient de ce qu'on entend, nous dit la Bible. Encore là, entendre, écouter. Écouter ce que Dieu dit. Mais le grand problème, c'est que les gens ne veulent écouter que ce que Dieu dit dans la Bible. Mais Dieu parle autrement aussi. Il parle par son esprit, il peut parler à vos cœurs, à vos consciences. La Bible, c'est simplement... pour vous donner l'étalon, c'est-à-dire la mesure. Parce que beaucoup de gens prennent leurs pensées pour les pensées de Dieu. Et ce n'est pas la pensée de Dieu qu'ils reçoivent forcément. On reçoit, il y a toutes sortes de choses qui viennent. Le diable peut se déguiser en ange de lumière et vous parler à la manière de Dieu. Mais il y a un truc où il va toujours se trahir. Et si vous connaissez les Écritures, vous allez reconnaître la voix de Dieu quand il va vous parler. Vous allez savoir si c'est Dieu ou si c'est un esprit de séduction qui vous parle. Mais Dieu ne fait pas que de parler par la Bible, il peut vous parler directement. Si Dieu se met à vous parler pour vous dire comment, sur quel marché vous devez aller pour choisir vos melons, méfiez-vous, c'est sûrement pas Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de chrétiens disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». C'est pas Dieu qui leur parle, c'est des âneries. Dieu a d'autres choses à faire et à dire que de vous dire où il faut aller acheter vos melons. Je dis ça parce que ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Une sœur qui nous... Le Seigneur lui parle tout le temps. Il lui dit, faut aller sur tel marché, les melons sont moins chers et sont meilleurs. Le monde crève à côté de ça, mais Dieu, il s'intéresse au prix des melons. C'est génial. Enfin bon. Moi, je ne crois pas en des trucs bêtes comme ça, mais je vous parle de bien connaître la Bible, la parole de Dieu, afin que quand un esprit vous parle, vous sachiez discerner si c'est Dieu ou pas. Amen. Vous comprenez? C'est ça, la foi vient de ce qu'on entend. Et alors, autrement dit, vous aurez des résultats à la hauteur de votre foi, c'est-à-dire de ce que vous aurez entendu et compris. Et aussi, vous aurez des résultats selon l'utilisation que vous allez en faire. Une foi moyenne provient d'une écoute moyenne de ce que Dieu dit et les résultats sont moyens. Une foi plus grande, plus ancrée dans ce que Dieu dit dans la Bible et inspirée d'esprit à esprit, son esprit à votre esprit, ça aura des résultats plus grands. Mais mes frères et sœurs, voyez combien Dieu est bon, voyez combien il est généreux. Il nous encourage, il nous dit, si vous n'aviez que la foi comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne, va de là à là, elle le ferait. Il nous encourage en nous disant, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup. Parce que si on dit, il faut beaucoup de foi, alors on est découragé. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, déjà vous aurez des résultats remarquables. Je fais exprès de prendre ce mot « remarquable » parce que votre vie on va remarquer qu'il y a quelque chose dans votre vie. Il n'y a pas seulement du blablabla et de la morale et des lois, mais il y a aussi du surnaturel. Alors ne vous découragez pas à un grain de moutarde. Et puis aussi, ne soyez pas infantile. La foi, elle ne sert pas qu'à sortir des problèmes. La foi, elle peut aussi nous être utile, nous servir à vivre dignement au sein de la tempête, dans la maladie, dans la disette, dans les problèmes. Paul, il savait vivre dans la disette. Non? Et vous allez me dire qu'il n'avait pas la foi? Bien sûr qu'il avait la foi. Pourquoi il était dans la disette? Parce qu'il avait oublié de donner sa dîme? Certainement pas. Il était dans la disette parce que c'est les impondérables, ça arrive de temps en temps d'être dans la disette. Vous voyez? Mais il vivait dignement dans la disette. Il n'était pas en train de mendier, de pleurnicher et de dire « Oui, mais alors Dieu, je ne comprends pas. J'ai donné ma dîme et puis voilà, tu as oublié de me donner au centuple. » Non, il était digne. Amen. Et puis la foi, elle peut vous sortir de la fosse des lions. C'est vrai, la foi, elle peut. Mais elle peut aussi vous aider à tenir ferme et digne sous la scie des bourreaux. C'est ce qu'on trouve dans Hébreux 11, 36, 37 et suivant. La foi. Notre foi, elle sert plus à Dieu qu'à nous. Notre foi. Quand nous manifestons notre foi, nous glorifions le nom de notre Dieu. Notre nom, le nom que nous portons depuis que nous sommes dans cette famille. Nous glorifions le nom de Dieu devant les anges, devant les démons et devant les terriens. C'est important. Alors, ne vous laissez pas hypnotiser par la chair, ne vous laissez pas hypnotiser par les mauvais esprits. Quand on est hypnotisé, on est bloqué sur place. Mais l'apôtre nous dit, courez avec persévérance dans la carrière qui vous est ouverte, juste après le chapitre 11 d'Hébreux, le chapitre de la foi. Je me suis dit, mais c'est quoi une carrière? J'ai regardé dans le dictionnaire, il y a deux significations principales au mot carrière. Premièrement, le mot carrière, il faut savoir que ça vient du mot carus, qui est un mot latin qui signifie char. Voiture, moyen de comment on appelle ça, locomotion. Alors une carrière, premièrement, c'est un grand manège d'équitation à terrain découvert. Vrai ou faux, Alain? Alain qui est dans les chevaux. Dieu nous a placés ici-bas, avec notre accord dans notre vie prémortelle, il nous a placés ici-bas dans un grand manège. Vous êtes Bénur ou vous êtes Messala? Ouais, oui. Vous voyez que ce film, c'était écrit par un homme qui a voulu glorifier le nom de Jésus. Voilà s'il s'appelait. C'est un général de l'armée américaine. Il y a plein de petites paraboles, enfin de grandes paraboles dans ce film. Il faut le voir spirituellement. Vous êtes Bénur dans la carrière ou est-ce que vous êtes Messala? Vous êtes le gentil ou vous êtes le méchant? Sur ma nouvelle carte de visite, j'ai marqué « Soyez le gentil dans le film de la vie ». Dans les films, il y a toujours le gentil et le méchant. Il faut choisir si vous voulez être le gentil ou le méchant. Si vous voulez être le perdant ou le gagnant. Par la foi, soyez bénur. Ça n'a rien à voir avec la matmut, mais ça assure. Ne restez pas dans un coin, dans le manège, en attendant que ça se passe. Ne soyez pas simplement les spectateurs qui disent « Vas-y, bénur, vas-y !» Non, il faut que ce soit vous, bénur. Courez. Courir dans la carrière. Courir, ça signifie, c'est une action, courir. Quand on court, c'est parce qu'on court après quelque chose, on court après un but, on veut atteindre. Et puis courir dans la carrière que Dieu nous a ouverte, c'est courir avec des règles qui nous sont imposées. Bénur, il ne courait pas n'importe comment. Mais ça, il courait n'importe comment. Bénur, non. Courir selon les règles. Et la deuxième signification du mot carrière, c'est profession présentant des étapes et des degrés successifs. Est-ce que vous avez un plan de carrière? Et toutes les stars à la mode maintenant disent « Non, non, je n'ai pas de plan de carrière. » Tu parles. Et ceux qui réussissent, ils ont un plan de carrière. Les autres, ils n'ont pas de plan de carrière. C'est exactement ce que je vous enseigne depuis toujours. Il y a des degrés, mes frères et sœurs. Certains ne comprendront jamais cela parce qu'ils sont dans des degrés inférieurs et ils croient que c'est bien déjà comme ça. Et puis voilà, puis ils se plaignent, et puis ils murmurent, c'est des chrétiens, ils ne sont jamais satisfaits. Mais parce qu'ils aiment bien finalement être inférieurs. Vous avez des gens, ils aiment bien être malades, vous avez des gens, ils aiment bien être pauvres, vous avez des gens, ils aiment bien la médiocrité, parce que comme ça, on les plaint, et puis comme ça, ils sont contents parce qu'on fait attention à eux, puis on fait de l'humanitaire, puis on est gentil avec eux et tout. Mais il faut monter. Il y a des degrés, il y a d'autres degrés, dans tous les domaines, spirituels surtout. Celui qui se trouve dans les degrés supérieurs, c'est celui qui obéit au premier des 11 commandements. Vous savez qu'on dit toujours les 10 commandements, mais il y a 11 commandements. Le premier, c'est « Écoute !» Le premier. Celui qui arrive à monter dans les degrés de vie spirituelle, c'est celui qui obéit au premier commandement, qui a appris à écouter. Il y a des milliers de chrétiens sur la terre qui ne sont pas disciples. Il y a même des milliers qui n'ont même pas appris à apprendre. Ils ne savent pas écouter. Pendant la prédication, ils pensent autre chose. Ce qu'il dit là, ça me fait penser à... Puis hop. Et ils s'autorisent à aller écouter des pensées qui... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand vous êtes là, écoutez! Branchez-vous là, et puis après vous penserez comme vous voulez. Et pour le moment, vous êtes là pour apprendre, pour écouter, après vous allez disséquer tout ça chez vous, vous allez reprendre Internet, vous allez réécouter, puis là vous allez prendre des notes, là vous allez réfléchir, vous allez méditer. Mais apprenez à apprendre. Attention mes frères et sœurs, si on ne fait pas ça, on ralentit dans la course, on rate un virage. La Bible nous dit persévérez dans la carrière qui vous était ouverte, courez, continuez. Ne ménagez pas vos efforts, gardez, entretenez, cultivez votre foi. Et tout ça pour la plus grande gloire de Dieu, pour le bien des autres et votre satisfaction personnelle. Amen. Jésus veut bénir ces choses que j'ai dites ce matin, que mes frères et sœurs aient une mentalité de vainqueur et que cela soit par la foi et non pas par le bras de la chair, pour la glorification du nom de Jésus, notre Dieu bien-aimé. Amen. Amen. Amen.
Bonjour à tous. C'est vrai que ça a été long, 2 mois sans vous voir chacun, 2 mois en Vendée. Je viens pas pour vous parler de ces 2 mois, mais je viens pour vous dire merci. Je viens devant vous pour vous remercier des travaux de rénovation qui ont été faits dans la chambre de ma fille. Et vraiment, du fond du cœur, merci. Merci beaucoup. C'est un cadeau magnifique que la communauté, chacun d'entre vous, nous avait fait. Et encore, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas que rajouter à ce merci, mais ça m'a touché énormément. Oui. Je suis parti donc 2 mois avec ma famille. C'est pour vivre en Vendée, donc... ce que j'ai l'habitude d'y vivre auprès de cette association avec qui je travaille. 2 mois qui se sont très bien passés. Je me suis senti soutenu dans l'action au quotidien et c'est vrai que tout s'est bien passé. Bon, en ce qui me concerne, dans les organisations qui ont été mises en place, il y a eu des difficultés, c'est vrai, mais j'ai pu vivre et mettre en pratique beaucoup de choses. qui ont permis à ce que ces centres de vacances puissent bien fonctionner ou sortir de difficultés de différents niveaux. Voilà, j'ai terminé l'été hier soir. Je repars demain matin au Château des Vaux pour une nouvelle année de boulot. C'est super. Et puis voilà. Merci encore à chacun d'entre vous.